Bon, dans la première partie de mon message, on va parler du rôle des œuvres dans le salut. Parce qu'ils en ont un rôle à jouer. L'Écriture n'arrête pas de le dire. On se souvient de ce que Jean-Baptiste disait aux Juifs. Cessez de dire que vous avez Abraham pour père et produisez du fruit. Si Jean-Baptiste reviendra aujourd'hui, il nous dirait peut-être quelque chose comme arrêtez de dire que vous êtes justifié et posez des gestes qui le prouvent. Bon, il y en a qui vont dire, ben, Romains 3, 28, Paul a dit que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Il ne faut pas oublier, par exemple, la Bible dit aussi que les enfants de Dieu vont être jugés selon leurs œuvres environ 42 fois. Puis ça, c'est à part toutes les autres fois où c'est dit indirectement. Là, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, prenez simplement une concordance, vérifiez vous-même. Il faut comprendre que les œuvres de la loi dont parle Paul ici sont des œuvres que l'homme fait comme pour étaler sa propre justice. Ce ne sont pas des œuvres qui sont faites de bon cœur, par amour pour Dieu ou du prochain. C'est pour ça que Paul dit que cette sorte d'œuvres-là, même si elles sont bien belles à l'extérieur, ne justifie pas l'homme. Parce que plus on cherche à affirmer notre justice, plus on devient orgueilleux, ce qui a pour effet de monter un mur entre nous et Dieu. Un peu plus tôt dans son épître, le même Paul a écrit en Romains 2,13 « Ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Paul nous présente clairement ici la justification comme dépendante des œuvres justes qu'on aura faites. Maintenant, est-ce que Paul se contredit lui-même? Absolument pas. Paul parle ici des œuvres justes que l'homme accomplit pour les bonnes raisons, des œuvres accomplies de bon cœur, avec joie, pour plaire à Dieu. Ce qui est très différent des œuvres de la loi dont il a parlé un petit peu plus loin en Romains 3. Il faut faire attention de ne pas pousser la doctrine du salut par la foi à l'extrême puis de se mettre à croire que les œuvres bonnes n'ont aucun rôle à jouer dans le salut, parce que ce serait une erreur tout aussi grave que de croire en un salut par les œuvres méritoires. Quand j'étais très jeune chrétien, je faisais du porte-à-porte avec un autre croyant. Comme on travaillait en milieu catholique puis qu'on avait affaire à des gens qui mettaient une grande emphase sur les œuvres méritoires, évidemment, on insistait beaucoup sur le fait qu'on était sauvé par la foi seule. En réalité, on insistait tellement là-dessus qu'on était devenu déséquilibré, dans le fond. À un moment donné, la chose s'est retournée contre nous autres un petit peu. On arrive à une maison, puis on commence à jaser avec la dame qui était là, puis après une couple de minutes, puis il était facile de voir qu'elle se moquait complètement de ce qu'on lui disait, des choses de Dieu en réalité. Comme on lui disait que c'était par la foi seule qu'on était sauvés, là, elle nous regarde avec un petit sourire en coin, puis elle nous dit, « Bon, ben, vous n'avez pas d'affaires ici, je l'ai, la foi invisible, ça veut dire que je suis sauvé tant vous autres. » Là, on s'est regardé la bouche ouverte un peu, puis moi et le frère qui était avec moi, on avait seulement quelques mois dans le Seigneur, puis on savait pas quoi lui dire pendant toute cette dame-là, à ce moment-là. Aujourd'hui, je le saurais quoi lui dire, ça je vous en passe un papier, mais à cette époque-là, on avait tellement peur, nous autres-mêmes, du mot « œuvre » qu'on n'en parle jamais. On savait pas tellement quoi en dire de toute façon, on n'était pas au clair en ce qui concerne le rôle des œuvres dans le salut, c'était ça la vérité. Puis je pense qu'en milieu évangélique, c'est une peur qui est ancrée là, depuis très très longtemps, parce que ici au Québec, on a un antécédent catholique autour de nous autres, puis on a des parents puis des arrière-grands-parents spirituels qui étaient profondément protestants. C'était le besoin de l'époque, mais n'empêche que cette racine-là de protestantisme puis d'opposer là, les doctrines catholiques, c'est ancré en nous autres. Puis une de ces doctrines-là qui protestante qui allait très à l'encontre du catholicisme, c'était justement ça. On opposait la doctrine par les œuvres, puis on mettait une grande emphase sur la foi. Ça remonte loin, cette histoire-là. On se souvient que Calvin en a parlé beaucoup, beaucoup de ça. Alors, ça fait du bien à son époque, là, mais je pense qu'on vit un temps où je pense qu'on est rendu un temps où il faut équilibrer les choses un peu. Maintenant, laissez-moi vous faire remarquer quelque chose dans les versets que je vais lire. Romains 3:20. Paul dit, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. » Romains 2,13 dit, « Ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Galates 2,16 dit, « Nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Comprenez-vous un petit peu où je veux en venir? Il est surprenant de réaliser qu'à plusieurs endroits, le Nouveau Testament parle de la justification du salut comme quelque chose de futur, plutôt que comme une chose déjà passée, puis déjà classée. On est obligé d'en comprendre que la justification par la foi est conditionnelle aux œuvres justes qu'on s'est engagé à accomplir dans le futur dans notre vie. C'est ce que Jean-Baptiste a appelé les œuvres dignes de repentance. Jean-Baptiste n'est pas un catholique. Autrement dit, être sauvé par la foi, ça veut dire être sauvé à crédit, si vous préférez. Je m'explique un petit peu mieux. Quand on a accepté Jésus-Christ, on a aussi pris l'engagement de nous conduire selon une bonne conscience envers Dieu pour le futur de notre vie. 1 Pierre 3:21 nous parle du baptême qui est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi. Quand une personne n'est pas honnête dans son engagement à faire des efforts pour changer de vie, son crédit n'est plus bon. Il n'est pas bon, il ne l'a jamais été probablement non plus. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que l'Écriture parle souvent de la justification au futur. Maintenant, quand Paul parle de la justification au passé, il n'y a pas vraiment de contradiction. Il faut seulement comprendre qu'il parle des croyants qui ont déjà prouvé par leurs actions et par leur bon cœur que leur engagement envers Jésus-Christ était honnête. Il y en a qui pensent qu'être justifié par la foi, ça veut dire plus besoin de rien faire. J'en connais de ça. Vous en connaissez probablement vous-même. Je m'excuse, mais si c'est ça que vous pensez, vous êtes tombé dans une grave erreur. Être sauvé par la foi ne veut pas dire qu'on peut être sauvé à rien faire. Il y en a plusieurs aujourd'hui qui pensent que l'habit de noces dont parlait Jésus dans la parabole représente la foi en Jésus-Christ. Je m'excuse encore, mais ce n'est pas écrit ça. Ce que la Bible dit, par contre, c'est que l'habit spirituel dont vont s'être revêtus les sauvés représente leurs œuvres, pas seulement leur foi. Apocalypse 19, 7, 8 dit « Et les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Alors, je n'invente rien. Je pense que qu'est-ce que j'enseigne, je le prends dans les Écritures. J'essaie d'être équilibré. C'est un message qui est très difficile à livrer parce qu'il y a tellement de préjugés là-dessus. C'est difficile un peu pour moi. Alors, je vous demande d'être patient puis de vraiment réfléchir à ce que vous entendez avant de le rejeter. Dans certains esprits, le salut par la foi seule, ça veut dire un salut sans repentance. La Bible n'enseigne pas ce genre de salut-là. Laissez-moi vous dire quelque chose d'extrêmement important. Le salut commence jamais par la foi. Il commence par la repentance. Ça a toujours été comme ça sous l'Ancien Testament. C'est encore comme ça sous le Nouveau. Jean-Baptiste a prêché la repentance avant de pointer son doigt vers Jésus. Même Jésus, au début de son ministère, lui-même a dit en Marc 1:15, « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Repentance d'abord. À la fin de son ministère, il est dit en Luc 24:47 que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Repentance et foi en deuxième, encore une fois. L'apôtre Paul a dit en Actes 20:21 que son message était la repentance envers Dieu, d'abord, et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Plus tard encore, Paul dit en Actes 26:20, « À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Là, on est en plein milieu du Nouveau Testament, mes amis. On ne peut pas se tromper, là. Alors, tout ça pour dire que le salut par la foi seule, là, il faut s'entendre. Encore une fois, quand Paul a parlé du salut par la foi seule, en Romains chapitre 3, il parlait comme ça pour détruire cette tradition fausse qu'il y avait chez les Juifs, qui était de croire qu'observer la loi, la lettre de la loi, procurait du mérite personnel. Paul savait bien que chez beaucoup de Juifs, leur observation de la loi était superficielle, rituelle, le cœur n'était pas là, mais qu'ils agissaient comme ça, que seulement pour se donner une bonne réputation religieuse aux yeux des autres. Paul n'était pas en train d'exclure les œuvres de la repentance dans le salut. L'apôtre Jacques a écrit que la foi sans les œuvres ne sauvait pas. Jean 8, 30-31 dit, « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Alors, ces Juifs-là, ils avaient la foi en Jésus. Mais le malheur, c'est justement ça. Il n'y avait que la foi seule. Ils croyaient en Jésus, mais ils ne se repentaient pas de leur péché personnel. Non, la foi seule, dans ce sens-là, ça ne sauve pas. Jésus a dit que, sans la repentance, il n'y a pas de salut. Il dit ça en Luc 13:3. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. Bon, ça peut être plus clair. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Le salut commence par la repentance. Je pense avoir donné suffisamment de versets pour une fois un cheval avec. Bon, c'est comme le salut commence par la repentance, ensuite on y joint la foi en Jésus-Christ, dans le but de recevoir son esprit, puis enfin connaître la libération de l'empire du péché. C'est comme ça que ça marche. Malheureusement, de nos jours, on prêche souvent le plan de ciel à l'envers. On commence par prêcher la foi en Jésus, alors que les gens n'ont même pas la moindre intention de renoncer à leur péché. L'Église catholique, par exemple, est pleine de gens comme ça qui font seulement croire en Jésus, mais leur foi seule ne les sauvera pas parce qu'ils y joignent pas les œuvres dignes de repentance. Puis malheureusement aussi, les soi-disant chrétiens évangéliques, comme ça, il y en a des tas. Jean a dit que la foi sans les œuvres était vaine, ou que la foi sans les preuves était vaine, si vous préférez. Jacques, dans tout le chapitre 2 de son épître, emploie pas le mot « œuvre » dans le même sens que Paul. Quand Paul parle des œuvres de la loi, en Romains 3, il en parle négativement. Il parle des œuvres qu'on ferait juste pour se faire remarquer par les autres. Jacques emploie le mot « œuvre » dans un sens positif, c'est-à-dire dans le sens de l'œuvre, dans le sens que l'œuvre qu'on fait est une action, une pensée ou une attitude qui plaît à Dieu parce qu'elle est faite dans l'humilité, de bon cœur et par amour. Paul parle des œuvres de la loi, puis Jacques parle des œuvres de la foi, en réalité. Ces deux sortes d'œuvres-là sont très différentes. Dans l'esprit de Jacques, les œuvres sont des actions justes que les croyants accomplissent naturellement, de bon cœur, joyeusement, gratuitement, et par pure reconnaissance envers Dieu qui les a sauvés. Le croyant n'est pas sauvé sans les œuvres. C'est une erreur de croire ça. Il est sauvé sans les œuvres et les ordonnances rituelles de la loi, d'accord, mais pas sans les œuvres du tout, sans œuvre aucune. Le salut des brebis, en Matthieu 25, n'a pas été décrété seulement à cause de leur foi, mais à cause de leur œuvre juste. Dieu va juger les croyants à leurs œuvres parce que c'est rien qu'à leurs actions que Dieu pourra vérifier si leur foi était authentique ou non. Les brebis et les boucs avaient la foi tous les deux. Il y a deux sortes de foi en Jésus. Il y a celle que j'appelle la foi culturelle. Cette sorte de foi-là vient seulement d'une éducation chrétienne, qui est de fabrication plus ou moins humaine, puis qui est absolument sans force. S'il n'y a pas quelque chose qui se produit d'autre à un moment donné, il y a aussi la foi que Dieu donne lui-même par la conviction du Saint-Esprit. Cette foi-là apporte avec elle la grâce, puis le besoin intérieur de faire de bonnes actions. Montrez-moi un seul vrai chrétien qui ressent pas un désir profond, puis un besoin intérieur de faire de bonnes actions. Montrez-moi une personne comme ça qui se dit chrétienne, puis qui n'a pas ce besoin-là dans lui, qui ne ressent pas ce fardeau-là, puis je vais vous montrer quelqu'un qui n'est pas sauvé. Cette foi-là, quand on a un besoin intérieur, cette foi-là est vivante, comme le dit l'Écriture, puis elle nous porte sans cesse à poser des gestes inspirés par la charité. Ce qui est écrit en Galates 5-6, la foi est agissante par la charité. Alors les chrétiens qui disent croire en Jésus, mais qui ne posent jamais aucun geste qu'ils démontrent, ou qui n'ont jamais aucune bonne attitude, ou peut-être seulement, ont peut-être une foi seulement culturelle. Ils ont peut-être été élevés d'une famille chrétienne, ils ont peut-être été élevés dans l'Église, mais ça ne fait pas des autres des chrétiens pour autant. La foi spirituelle produit un empressement, une aspiration ardente à mener une vie qui soit agréable à Dieu, puis un désir d'exercer la charité envers les autres. À la façon dont certains enseignent la justification aujourd'hui, ça me fait l'effet d'une fausse note dans les oreilles des fois. Il y en a qui ont toujours l'impression de vouloir dire que si tu as été justifié, tu n'as même pas besoin d'en porter les fruits, puis ça est absolument faux, mes amis. La justification n'est pas quelque chose qui est supposé être invisible. En Matthieu 25, 37, ça dit « Ceux qui vont être sauvés, les brebis, là, Jésus les appelle des justes. Jésus décrit même les bonnes actions qu'ils ont posées durant leur vie. C'est pas ceux qui se prétendent justifiés qui sont justes, mais ceux qui aiment la justice puis qui s'efforcent de pratiquer. Les gens que Jésus décrit en Matthieu 25 n'étaient pas seulement justifiés positionnellement, mais visiblement aussi, c'est-à-dire de façon pratique par des actions. Justes. Si notre supposée justification nous a jamais rendus plus justes dans nos affections, notre façon de penser et de vivre, c'est qu'on n'a pas été justifié du tout. Je m'excuse, mais ça, c'est la pure vérité biblique que vous entendez là. Être justifié, ça ne veut pas seulement dire qu'on a été appelé juste, mais ça veut dire aussi qu'on a été rendu juste, comme le dit Paul en Romains 5, 19. La justice, c'est la nouvelle nature du croyant. Il y a des chrétiens aujourd'hui, tu sais, c'est pas juste une étiquette qu'on porte, là, être juste. C'est vraiment une nouvelle nature qu'on a reçue. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui font aucun effort pour se sanctifier, puis aucun effort pour se débarrasser du péché dans leur vie, sous prétexte qu'ils ont été sauvés par la foi seule, puis qu'ils vivent sous la grâce. Hein. Ces chrétiens-là montent debout sur les tables pour défendre le salut par la foi à chaque fois qu'un frère essaie de les exhorter à la sanctification. En réalité, c'est pas le salut par la foi qu'ils défendent, mais une belle philosophie de paresseux, à mon avis, qui va se retourner contre eux autres au jour du jugement. Je soupçonne ces gens-là d'aimer la doctrine de la justification plus que la justice elle-même. Je les soupçonne de défendre cette doctrine-là pour des mauvaises raisons. Je pense que pousser à la limite, là, la doctrine du salut par la foi seule, pour plusieurs croyants, finit par servir en réalité de prétexte pour pas faire les changements que Dieu leur demande de faire dans leur vie. Mais je m'excuse encore une fois, mais un salut sans œuvre digne de repentance n'existe pas dans la Bible. Je suis bien d'accord avec ceux qui défendent le salut sans les œuvres de la loi, mais pas avec ceux qui prétendent être sauvés sans les œuvres de la foi. 1 Jean 3,7 dit « Que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste. » En d'autres mots, c'est celui qui pratique la justice qui est juste, puis personne d'autre. Ce passage de Jean semble être le commentaire de certains passages du prophète Ézéchiel. Il y a Ézéchiel 18, 20 à 30, qui ressemble énormément à ce que Jean a écrit ici. On lit « La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. » On dirait presque Ézéchiel que Dieu prêchait l'Évangile ici. C'est exactement ça. Prêchait la grâce. Bon, le peuple d'Israël avait la foi, à cette époque-là aussi, comme à toutes les époques, mais ça ne suffisait pas à le justifier aux yeux de Dieu. On sait que les prophètes étaient toujours en train d'exhorter Israël à la pratique d'œuvres justes. Le peuple avait sans cesse la tendance à se complaire dans le fait qu'il était le peuple de Dieu, puis que ça le justifiait de vivre dans le relâchement. On poursuit notre lecture. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Maintenant, il y a Ézéchiel 33,13, qui est un texte parallèle qui parle d'une fausse confiance dans la justification. Dis aux enfants de ton peuple, lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée, il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Alors c'est très clair, on ne peut pas honnêtement se dégager de ce qu'impliquent ces passages-là, sous prétexte, qui sont tirés de l'Ancien Testament, parce que l'apôtre Jean, comme j'ai lu tantôt, en 1 Jean 3,7, je crois, tout au long de son épître, même reprend exactement les mêmes choses en d'autres mots. Alors, si on rejette la première partie des textes d'Ézéchiel, où ça parle de la perte de la justification sous prétexte qu'il se trouve dans l'Ancien Testament, ben on va devoir rejeter aussi le pardon et la justification du pécheur qui se trouve dans le même passage, dans le fond. Alors, laissez-moi répéter 1 Jean 3,7. Que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste. Se dire sauvé alors qu'on permet à des péchés d'aller et venir dans nos vies sans les combattre, sous prétexte qu'on est sauvé sans les œuvres, et c'est une moquerie, puis même, je dirais, une injure à l'œuvre de Jésus-Christ. Pourquoi vous pensez que le sacrifice d'Abel a été accepté, puis que celui de Caïn a été refusé? Parce qu'Abel avait la foi, puis que Caïn ne l'avait pas? Bon, dans un sens, c'est vrai, Abel avait une foi authentique. Son frère n'avait peut-être pas une, mais ce serait faux de croire que Caïn n'avait pas la foi du tout, par exemple, parce que s'il n'avait pas eu la foi du tout, il ne se serait pas baudré d'offrir des sacrifices, pensez-vous? Je pense pas. Si le sacrifice de Caïn a été refusé, c'est-tu parce qu'il a offert des fruits de la terre au lieu des moutons? Je pense pas non plus, parce que sous la loi de Moïse, il y avait des sacrifices que les gens faisaient et qui étaient justement constitués des fruits de la terre. On a ça, par exemple, en Lévitique 2,4, Lévitique 2,14 à 16 et Lévitique 7,12. Alors, pourquoi le sacrifice d'Abel a été accepté et celui de Caïn refusé? C'est très simple. C'est parce qu'Abel était juste et que Caïn était méchant. C'est 1 Jean 3,12 qui dit que les œuvres de Caïn étaient mauvaises, que celle de son frère était juste. Tout en revient à ça. Tout en revient à ça. C'est la base de tout. C'est la même chose pour Jacob et Ésaü. Dieu dit quelque part, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Pourquoi vous pensez? Parce qu'il savait, parce que Dieu savait ce qui deviendrait ces enfants-là plus tard. Dieu savait d'avance que Jacob allait être un homme intègre et juste dans sa vie, tandis qu'Ésaü allait être profane et fornicateur. Alors encore là, on a les œuvres bonnes et mauvaises. Jésus avait une autre façon de dire que la foi fonctionne avec ses œuvres. Ça se trouve en Luc 10, 27, où il est dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Autrement dit, tu ne peux pas dire « Oui, j'aime Dieu » si tu n'aimes pas aussi ton prochain, en action et en vérité avec ça. C'est une autre façon de dire que la foi sans les œuvres ne sert à rien. Jésus a mis ces deux commandements-là sur le même pied d'égalité. En fait, ils sont inséparables. L'amour du prochain est le fruit qui prouve notre amour pour Dieu. Jésus a insisté beaucoup plus sur l'amour du prochain que sur l'amour de Dieu dans son enseignement. Parce que les Juifs, comme plusieurs croyants modernes, ont la fâcheuse tendance à se complaire dans leur justification puis à négliger la justice. L'apôtre Jean exhorte le chrétien dans le même sens en disant « Nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Jean dit en d'autres mots « Joignez des actions justes à votre foi. » Alors, la pratique de la justice puis de l'amour du prochain constitue les deux pieds sur lesquels le vrai chrétien se tient debout. Se convertir au Christ signifie donc automatiquement se convertir aux autres également. Rappelez-vous l'histoire de Corneille, aussi en Acte 10. On pense que Corneille était un prosélyte. On ne sait pas écrit nulle part, mais c'est quand même logique de le supposer. Mais ce qui est très clair, en tout cas, c'est que c'est pas sa fidélité aux ordonnances de la loi qui a attiré l'attention et la bénédiction de Dieu sur lui, mais sa piété personnelle, sa générosité à faire des aumônes au peuple, nous dit l'Écriture. Un jour, il y a eu une vision d'un ange qui lui a dit, Acte 10, 4, 5, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Pas d'autre chose. Des œuvres justes sont montées vers Dieu. Dieu a remarqué ses œuvres justes, sa piété. 1 Jean 3, 10 nous dit, « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. » Alors on voit que les choses étaient très simples à l'époque des apôtres. C'est notre devoir aujourd'hui de revenir à la simplicité de l'Évangile aussi. Forçons continuellement, si on est pasteur ou enseignant, forçons continuellement l'attention de nos gens sur l'essentiel de la foi chrétienne, c'est-à-dire l'amour du prochain et la pratique de la justice, sous toutes ses formes. La doctrine de la foi sans les œuvres de la loi devrait être prêchée seulement aux arrogants religieux qui se croient justes en eux-mêmes. Et pour les humbles croyants qui ont appris de Christ à se confier en Dieu pour leur justification, pour la grâce, on doit les exhorter à produire de plus en plus de bonnes œuvres. Maintenant, c'est quoi une bonne œuvre? On va s'arrêter pour répondre à ça parce que c'est une question importante. Il est écrit en psaume 24, 3, 5, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. » Il n'y a pas rien que la bouche qui implique le mensonge, il y a l'âme aussi. Et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Bon, ce texte-là nous montre bien qu'on ne sera pas jugé à nos bonnes œuvres extérieures seulement, mais surtout à ce qu'il y avait de bon au fond de notre cœur, derrière cette œuvre-là. En Hébreux 9, en parlant de Jésus, ça dit « Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. » Bon, avant de pratiquer des œuvres justes, il faut aimer la justice, sinon il ne valent rien. Puis avant d'arrêter de commettre l'iniquité, il faut la détester, l'iniquité, dans notre cœur, sinon on ne l'a pas vraiment abandonné. C'est là que tout commence, puis c'est là que Dieu regarde le cœur. Être juste, c'est pas seulement poser des actions justes, parce que n'importe quel hypocrite peut en faire autant. Être juste, c'est d'abord et avant tout aimer la justice. Être juste, c'est pas seulement se forcer pour arrêter de commettre l'iniquité, ça aussi, n'importe quel hypocrite peut le faire, mais c'est d'abord une question de haïr l'iniquité. Les motifs intérieurs qui sont derrière nos actions sont plus importants que nos actions elles-mêmes, aux yeux de Dieu. Bon, sachant maintenant que pour Dieu, c'est le cœur qui importe avant tout, on sait alors qu'une bonne œuvre, c'est pas seulement une bonne action, mais ça inclut toute bonne attitude, toute bonne pensée, toute bonne affection ou toute bonne intention et les choses semblables. Par exemple, Dieu a refusé à David le privilège de lui bâtir une maison. Souvenez de ça. Mais il a quand même loué sa bonne intention de le faire. En 1 Roi 8:18, c'est écrit, « Puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison en mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. » Dieu le félicite d'avoir bien fait, alors que David n'avait rien fait en réalité encore. Et aux yeux de Dieu, il l'avait déjà fait, dans son cœur. Alors, quand la Bible dit qu'on va être jugé selon nos œuvres, ça ne veut pas seulement dire que Dieu va regarder si on a fait des choses ou non, mais surtout la façon, la pureté des motifs avec lesquels on va les avoir faites, ou qu'on aura simplement voulu les faire. Ça aussi, ça compte. En ce qui concerne les ministères maintenant, 1 Corinthiens 3,13 dit que le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Bon, la seule façon pour Dieu de juger l'œuvre de chacun, c'est de juger le cœur de chacun. À propos de l'éponge avec laquelle le soldat a donné à boire à Jésus, on oublie des fois qu'il s'agissait probablement de l'éponge avec laquelle les soldats se lavaient les mains, puis qu'ils essuyaient leur sueur, puis le sang qui était envolé sur les mains et sur le visage après avoir crucifié les condamnés à mort. Une éponge qui était souillée de plusieurs façons, de la même manière, combien de nos soi-disant bonnes œuvres sont souvent souillées par des mauvais motifs. C'est pas l'étendue d'un ministère qui fait qu'on va avoir été agréable à Dieu. Peu importe le succès apparent qu'un ouvrier quelconque peut avoir eu, si le cœur de l'ouvrier n'a pas été pur en motif, il va perdre sa récompense, nous dit l'Écriture. Un ouvrier qui a fait un an de ministère en se donnant lui-même pour amour, pour les gens, va recevoir une plus grande récompense que celui qui a fait un burn-out pour avoir fait 10 ans de ministère, mais qui l'a fait pour se faire une bonne réputation vis-à-vis ses supérieurs, puis qui a montré de la dureté envers les gens envers qui il exerçait son ministère. Ça fait réfléchir, ça. Alors, le jour du jugement va être un jour de grande surprise pour chacun de nous autres, je pense. Il y en a qui vont penser avoir fait beaucoup dans leur vie pour le Seigneur, alors qu'ils auront fait très peu dans le fond. Puis il y en a qui vont penser avoir pas fait grand-chose, mais qui auront fait beaucoup à ses yeux. Les justes, de Matthieu 25, les brebis, avaient l'air vraiment surpris d'être appelés justes, même, par le Seigneur, pour avoir fait de si petits gestes comme donner à boire à quelqu'un un verre d'eau, ou visiter un malade. Jésus n'a pas dit, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, parce que vous avez évangélisé la moitié du monde, vous qui avez fondé 12 églises, ou vous qui avez fait de longues études théologiques, ou qui avez eu des ministères à succès. » Non, c'est au contraire de tout petit geste fait avec bon cœur, que tout le monde peut poser à peu près tous les jours, que le Seigneur a regardé. Dieu nous a mis sur la terre pour nous faire passer une sorte d'épreuve de caractère. Les motifs de nos œuvres nous permettent de révéler quelle sorte de cœur on a, puis quelle sorte de personne on est. Est-ce qu'on est foncièrement bon ou foncièrement méchant? Le chrétien, lui, peut se poser la question suivante, à travers... L'œuvre que je fais, est-ce que je le fais par amour pour Dieu et de mon prochain? Ou est-ce que je cherche un peu ma gloire personnelle, une valorisation égoïste peut-être? Alors c'est peut-être un service que Dieu nous rend des fois quand il nous arrête. Parce qu'il y a seulement ce moment-là qu'on peut vraiment réfléchir à nos motifs intérieurs. Quand Dieu nous arrête dans le ministère, c'est souvent parce qu'il veut qu'on sanctifie le cœur. Quand Dieu monte une barrière devant nous autres, ça ne veut pas dire que c'est la fin, peut-être juste le commencement. Alors, soyons sages, puis comprenons ce qui est agréable à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, pas nécessairement notre occupation. Le bien ne doit jamais être fait par intérêt personnel, parce qu'à partir de ce moment-là, il ne vaut plus rien. Le bien qu'on fait se fait toujours gratuitement, ou alors, ce n'est plus une bonne action. Tout autre motif que la charité est seulement de l'égoïsme déguisé. Le croyant doit faire le bien par simple amour du bien. C'est ce que Paul appelle la bénignité, en Galates 5, 22. Bon, selon un certain dictionnaire, la bénignité, c'est un sentiment par lequel on se plaît à faire du bien aux autres. Donc, c'est pas ce qu'on fait qui compte pour Dieu, mais comment et pourquoi on le fait. Ce sont ces choses intérieures-là qui font de nos actions des bonnes ou des mauvaises œuvres. Proverbe 16, 2 nous dit, « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits ou les motifs, c'est l'Éternel. » En Jacques 3, 13, lequel d'entre vous est sage et intelligent qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Ce texte-là nous permet de comprendre encore une fois que les bonnes œuvres, c'est pas seulement une bonne action, mais aussi une bonne parole, puis une bonne attitude de cœur. La prédication du prédicateur peut être une bonne œuvre si elle est remplie d'une douceur charitable pour les gens à qui il s'adresse. Les bonnes exhortations d'un prédicateur peuvent devenir comme une pluie rafraîchissante, puis faire énormément de bien à ceux qui les entendent. S'il est vraiment en train d'essayer d'édifier, d'encourager, de consoler les gens à travers son enseignement, bien, sa prédication est considérée comme une très bonne œuvre aux yeux de Dieu. Alors, la bonne œuvre, c'est pas encore une fois quelque chose qu'on fait. Des fois, c'est quelque chose qu'on est. La prière peut être ou ne pas être une bonne œuvre aussi. Prier à propos de quelqu'un, c'est rien. Prier pour quelqu'un, ça c'est quelque chose. C'est la sollicitude de notre cœur envers la personne pour laquelle on prie qui fait de notre prière une bonne œuvre. Ou non. En Matthieu 25, 31 à 46, quand Jésus parle du jugement d'Église, encore une fois, les brebis, là, puis les boucs, on voit que les hommes vont être jugés à la sensibilité qu'ils auront ou qu'ils n'auront pas eue devant la souffrance des autres. J'ai été malade, j'étais étranger, en prison, etc. Celui qui soulage l'affligé fait le ministère de Dieu. Ou continue, perpétue le ministère de Jésus-Christ. On est la bouche, les pieds, puis les mains de Dieu sur la terre. Les gens religieux font quelquefois de belles œuvres, mais pas toujours de bonnes œuvres. Une bonne œuvre doit obligatoirement venir d'un cœur bon, d'un cœur qui agit par compassion. À un moment donné, ma mère a dû être hospitalisée pour être opérée pour le foie. Puis elle me racontait comment il y avait un infirmier qui bourrassait un peu la vieille madame dans le lit d'à côté pendant qu'il était en train de la laver. La vieille dame venait de se faire opérer pour je sais pas quoi elle aussi, là, puis ça lui faisait mal, évidemment, de se faire brasser puis de se faire retourner sur tous les côtés. Elle pleurait, puis elle disait à l'infirmier, « Ah, pour moi, je pense que je ferais bien mieux d'être morte. » L'infirmier lui a répondu, « Ben, vous avez juste à crever. » Tout ça pour dire qu'on peut, comme cet infirmier-là, faire des belles actions à longueur de journée, sans que ça ait aucune valeur devant Dieu. Une bonne action devient une bonne œuvre seulement si elle est faite par amour. On est tous capables de faire le bien, mais il ne s'agit pas juste de le faire. Il faut le faire avec bon cœur. Si on fait une certaine bonne action par obligation ou en reculant notre bonne action, on n'est plus une. Elle est devenue une œuvre de la loi, qu'on fait sans amour et qui est sans valeur. Alors il va falloir prier souvent, je pense, pour ajuster notre attitude intérieure à ce niveau-là. Je voudrais quand même faire une remarque ici. On pense des fois qu'un chrétien, c'est obligé d'être quelqu'un qui a toujours le goût de rendre service. Peu importe ce que tu lui demandes ou à quelle heure tu lui demandes, il va toujours se précipiter avec joie au service de ses frères. Bon, c'est bien beau, mais ce serait bien idéal, là, mais si je ne connais pas personne qui est capable de faire ça. Bon, l'autre jour, il était à peu près 3h30 de l'après-midi. J'avais eu une journée horrible, puis tout avait mal été toute la journée. Ma plomberie coulait dans la cave, j'avais un tuyau qui coulait à un endroit. Quand j'ai fini de le réparer, ben, le tuyau neuf coulait, que j'avais posé coulait à trois endroits. Alors, c'est pour vous montrer mon habileté. Ma journée n'était pas tellement bonne. Alors, comme j'étais déjà de bonne humeur à tripoter par mes tuyaux, puis que j'étais en train d'essayer de refaire mes soudures, ben, il y a un frère de l'Assemblée qui m'appelle et qui me donne. Il me demande si je pouvais aller l'aider à poser du papier sur le toit de sa maison. Qu'est-ce que vous pensez que j'avais envie de lui répondre? Ah oui, ça me fait assez plaisir. Poser du papier sur le toit d'une maison pendant 5 heures de temps, c'est justement ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. Ah non, je mentirais bien mal si je vous disais ça. Mais je lui ai dit quand même que j'irais l'aider. Mais très honnêtement, je peux dire qu'au départ, j'ai été à reculons, puis les deux pieds sur le break, comme on dit. Je priais Dieu en m'en allant, de m'aider à surmonter les protestations de ma frère. J'avais du travail à faire. Il y en avait des protestations. La première demi-heure, là, je l'ai faite à reculons. Je pense que je plantais, chaque clou que je plantais, je pense dans ma tête, je les déplantais. Mais après ça, après une demi-heure à peu près, je commençais lentement à avoir la victoire, tout en priant pour ça, puis en acceptant l'idée. Puis tout le reste du temps que j'ai travaillé, tout le reste de la journée, je l'ai fait de bon cœur, en donnant le meilleur rendement possible. Puis finalement, à la fin de la journée, ben, j'ai été très heureux d'avoir aidé ce frère-là. Tout ça pour dire qu'une bonne œuvre, c'est pas toujours quelque chose qui est facile à faire. C'est un peu comme la parabole des deux fils. Hein. Au début, il y en a un des deux qui n'a pas voulu y aller, travailler avec son père, mais plus tard, il s'est repenti et il a été. C'est de même. Ben, moi, avant, je pensais que c'était pas normal pour un chrétien d'avoir de la misère en service, jusqu'à temps que je remarque quelque chose dans Matthieu 5, 41 qui dit « Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. » Te force. Alors, je pense que c'est normal pendant le premier 1 000 de trouver ça forçant. Tant qu'on va vivre dans notre corps, la chair va toujours chercher à imposer sa volonté. Notre devoir de chrétien, c'est de travailler à faire plier la volonté de notre chair à l'esprit de service qui est en nous autres. Alors même si on trouve ça dur de faire une bonne action pendant le premier 1 000, si on le fait quand même, tout en s'efforçant d'ajuster notre attitude tout ce temps-là, c'est ça qui compte, pourvu qu'en fin de compte, on arrive à la victoire. Bon, il y en a qui sont médecins, policiers, psychologues, pompiers. Ces gens-là peuvent se réjouir d'avoir un métier qui leur donne tant d'opportunités de faire du bien dans le monde. Il y a tant de personnes qui sont dépressives parce qu'ils trouvent que leur vie n'a pas de sens, pas de but ou pas d'importance. Mais le but de la vie, c'est pas d'être important ou de servir à un but important. Moi, je dis que même si vous lavez des toilettes pour gagner votre vie, si vous êtes un bon gars ou une bonne fille, si vous rendez service, quand vous avez une occasion, si vous dites des bonnes paroles à quelqu'un qui en a besoin, si vous faites juste caresser seulement votre chien parce qu'il a l'air de s'ennuyer, si vous vous efforcez de retenir votre langue du mal, vous êtes l'un des êtres humains les plus importants qui existent sur la terre aux yeux de Dieu. Votre vie a un sens. C'est Saint François d'Assise, je pense, qui disait « Si j'aide seulement un oisillon à regagner son nid dans ma vie, je n'aurais pas vécu en vain. » Comprenez-vous ce que ça veut dire? Dieu regarde les petits gestes et nous juge à ceux-ci. Bon, passons un petit peu à autre chose. On se souvient que Jean-Baptiste n'a pas seulement dit aux gens de se repentir, mais aussi de produire des fruits dignes de repentance. La vraie repentance implique presque toujours des efforts honnêtes de rachat personnel. Premièrement, il faut distinguer entre la faveur générale de Dieu qui s'étend sur tous les croyants, puis la faveur spéciale que Dieu dépose sur eux quand il pose une bonne action. On éprouve cette faveur spéciale-là quand notre conscience nous rend le témoignage par le Saint-Esprit qu'on a été agréable à Dieu par la bonne action qu'on a posée. C'est le psaume 115,14 qui dit que l'Éternel vous multipliera ses faveurs. Bon, si on ne connaît pas de temps en temps cette faveur spéciale-là, on manque vraiment quelque chose de bénissant. Je me souviens, il y a une couple d'années, j'avais comme travail de faire du ménage dans des maisons privées. Mon employeur m'avait envoyé quelque part un jour, puis entre autres choses, je devais laver le poêle. La dame de la maison était partie travailler, puis c'était son garçon qui gardait la maison. Puis comme je lavais la vitre du poêle, j'ai appuyé un petit peu fort, puis la vitre a craqué. Mais le fils de madame m'a dit, « Bon, c'est pas grave, c'est rien qu'un vieux poêle, puis ça donne, ma mère ne remarquera même pas. » Bon, c'est vrai que c'est un vieux poêle qui ne valait plus grand-chose, mais moi, ma conscience me disait de faire quelque chose. J'étais pas bien avec ça. J'étais pas bien de partir sans avoir rien dit à la dame, puis sans au moins m'avoir excusé ou quelque chose de semblable. Alors, quand j'ai fini mon travail, je suis allé chercher 15 piastres chez nous, puis je suis allé le donner à cette famille-là. Je venais de me racheter un peu de l'erreur que j'avais faite, puis je vous dis pas tout le bien que ça m'a fait intérieurement. Je me sentais des ailes poussées dans le dos. Je me suis senti très léger, puis bien dans ma peau. Je sentais la bénédiction de Dieu. J'étais content que j'ai fait ça. J'aurais pu prendre juste le téléphone et dire « Je m'excuse, j'ai conservé du poil. » Mais je pense que Dieu m'a demandé plus que ça. Les bonnes actions qu'on pose nous méritent pas le salut. Mais il est faux de croire qu'elles nous méritent rien du tout, par exemple. Premièrement, les bonnes actions nous méritent des récompenses futures. Jean 4, 36 nous le dit, « Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. » En plus de ça, notre fidélité à garder les commandements de Dieu puis à marcher dans ses voies nous mérite un pourcentage proportionnel d'exaucement à nos prières. C'est 1 Jean 3, 22 qui dit, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements, que nous faisons ce qui lui est agréable. » Alors, ça donne du poids à nos prières que les bonnes œuvres. Certains chrétiens ont pris la bonne habitude de s'excuser puis de demander pardon quand ils pêchent contre quelqu'un. Moi, je trouve ça très bien. Mais attention, il y en a qui font rien que s'excuser un peu par habitude chrétienne, là. Ils n'ont pas l'intention de s'amender ou de se racheter, si vous préférez, même s'il y en avait l'occasion. Puis ça, je trouve que c'est pas parfait comme repentir. C'est en Acte 2, 37 qui dit, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Les mots « que ferons-nous » expriment clairement le désir de s'amender de ces gens-là, qui témoignent de l'authenticité de leur repentance. On se souvient aussi du conseil que le prophète Daniel a donné au roi Nebuchadnezzar, en Daniel 4, 27, pour l'avertir de l'intention de Dieu de le châtier pour son orgueil. Il a dit, « C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. » Écoutez bien ça. « Rachète tes péchés par des bienfaits et tes iniquités par la compassion envers les malheureux. » En passant, Daniel parlait pas du sentiment de compassion, mais il parlait d'une compassion pratique, je pense, c'est-à-dire d'une aide financière envers les pauvres. Je vais attirer spécialement votre attention sur la première parole, « Rachète tes péchés ». Daniel n'a pas dit « Rachète ton âme ou gagne ton salut », il a juste dit « Rachète tes péchés ». Une vraie repentance va toujours produire le désir de s'amender puis de rechercher de racheter, je veux dire, les mauvaises actions passées quand c'est possible. Comme dans le cas de Zachée le publicain, qui a volé des tas de gens, se souvient que quand il a trouvé le salut, il a dit au Seigneur, « Bon, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, puis j'ai fait tort à quelqu'un, j'ai en rends quatre fois le montant que j'ai volé. » Mais moi, je dis que partout où c'est possible de réparer le mal, ou le tort qu'on a fait à quelqu'un, on devrait le réparer, et pas seulement se contenter de prier pour lui, ou se contenter de s'excuser, ou de demander un petit pardon du bout des lèvres. Par exemple, si vous me prêtez votre couteau à brûler, puis que je casse la lame en l'utilisant, c'est bien clair dans mon cœur que je dois pas seulement m'excuser, mais aller vous acheter des lames de rechange avant d'aller vous le remettre. Comprenez-vous? Puis si je vous ai emprunté de l'argent depuis longtemps, puis que j'aurais pu vous le remettre avant, mais que j'ai préféré aller m'acheter autre chose au lieu d'aller vous payer ma dette, ben c'est bien clair dans mon cœur, en tout cas, que je devrais non seulement m'en repentir de ma négligence, mais racheter ma négligence en vous remettant un peu d'intérêt par-dessus ce que je vous dois. Ou si vous dites quelque chose qui a porté atteinte à ma réputation d'une façon ou d'une autre, venez pas me demander pardon. Venez pas vous excuser. Moi, je me moque de ça. Ce que je veux, c'est que vous alliez réparer le préjudice que vous m'avez causé devant la personne à qui vous avez parlé. Des excuses puis des salam alek, ça répare à rien, vous savez. Moi, je connais un chrétien qui a un petit problème de fierté. C'est quelqu'un qui a très bon cœur, par exemple. Quand on le connaît, on le voit facilement. J'ai remarqué que quand il avait péché contre moi, ou quelqu'un d'autre, dans le passé, d'une façon ou d'une autre, il demandait rarement pardon verbalement. Il trouvait ça très dur. Mais on pouvait facilement voir qu'il regrettait vraiment ce qu'il avait fait, par exemple. En plus de ça, il s'amenait toujours nous voir avec un service à nous rendre. Le type se rachetait. Moi, je trouve ça super. Dieu approuve bien plus ce genre. Le genre de chrétien qui se rachète sans se confesser que ceux qui se confessent sans se racheter. Ça, c'est ma conviction profonde. À quoi ça sert, dites-moi donc, d'insister pour chercher à humilier quelqu'un à nous faire des excuses officielles, là? S'il se rachète, ça en est des excuses, ça. Ça en est des bien meilleurs, selon moi. Mais des fois, exiger des excuses de quelqu'un, c'est une sorte de vengeance parce qu'on sait que ça fait mal à faire. Petite vengeance chrétienne, une petite étiquette là, qui porte un autre nom. Bon, en Colossiens 4:5, Paul a dit « Rachetez le temps ». Bon, faire des bonnes actions, c'est une façon de racheter le temps qu'on a passé à en commettre des mauvaises. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que ça rachète nos âmes, mais c'est simplement une façon de mettre des jambes et des mains au bout de notre repentance. L'amendement est la plus haute forme de repentance. La repentance parfaite commence par un regret, puis une confession, puis une amende honorable. Ça, c'est la perfection comme repentance. À chaque fois qu'on pêche, le péché blesse un coin de notre propre conscience aussi. Puis quand on pose une bonne action, c'est comme si on mettait un baume sur notre propre blessure. Quand on répare un tort à quelqu'un d'autre, c'est comme si on se réparait nous-mêmes, en réalité. Vous savez, les remords, ça vit très très longtemps. Ça vit aussi longtemps que nous autres. Faites-vous pas d'illusions. Je pense que vous savez ça autant que moi, je pense. C'est souvent l'auteur de l'offense qui souffre le plus de son offense. Alors, je pense qu'on ferait un grand pas vers la réalisation pratique de notre justification si on prenait la résolution de se racheter par des actions justes à chaque fois que c'est possible. Faisons-le pour notre prochain, puis faisons-le aussi pour nous-mêmes, pour nous guérir. Les bonnes œuvres de rachat qu'on accomplit ont le pouvoir de nous guérir un peu la conscience des péchés qu'on a commis. Comme le péché fait souffrir la conscience, ben, les bonnes œuvres nous font du bien et concourent à la restauration de nos blessures qui sont causées par nos manquements. Si on ne peut pas toujours changer facilement nos vieilles habitudes de péché, là, on peut par contre toujours poser de bonnes actions qui vont allonger la miséricorde de Dieu envers nous autres. Si à cause de nos manquements, l'ennemi en vient à nous faire douter même de notre salut, ça arrive chez les jeunes chrétiens très souvent, on peut nous rassurer par de bonnes œuvres, encore une fois. C'est ce que l'apôtre Jean a écrit en 1 Jean 3, 17 et 19. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, si on exerce la charité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. OK, si tu doutes de ton salut, c'est un jeune croyant, là, puis tu doutes de ton salut. La solution, c'est pas de te remplir la cervelle de versets qui disent que tu es sauvé par la foi, ou de versets qui parlent de la justification. Pose seulement des bonnes actions. les bonnes actions qui viennent vraiment de ton cœur. Ça va te prouver à toi-même qu'il y a vraiment eu un changement en toi, un changement que tu peux toucher, qui est visible, puis qui vient forcément de la présence de Jésus-Christ en toi. Tu vas te rassurer de ton salut à nouveau. On aura toujours des péchés dans nos vies puis des manquements. On fera toujours des erreurs et des gaffes. Si on attend d'être parfait avant de pouvoir nous sentir bien devant Dieu, on va attendre toute notre vie. Oui, on doit aller à Jésus avec foi, dans la confession, puis croire en son pardon. On doit croire en notre justification en lui, mais on doit aussi faire notre part des choses. Si vous voulez vraiment vous sentir bien devant vous-même, puis dans votre conscience, suivez mon conseil, mais rachetez-vous. Rachetez-vous devant la personne offensée ou devant vous-même, mais rachetez-vous. Faites du bien, rendez un service, faites une bonne action. Vous allez voir l'effet souverain que ça va vous faire. Vous allez vous sentir un bon chrétien, puis croyez-moi, ça fait du bien de temps en temps. Non, on ne sera pas jugé selon ce qu'on aura cru, mais selon ce qu'on aura vécu. Dieu jugera même pas, nous jugera même pas notre théologie au jour du jugement. Pensez-vous que Dieu a du temps à perdre avec ça? Dieu va nous juger selon le bien ou le mal qu'on va avoir fait étant dans notre corps. C'est aussi simple que ça. En conclusion, j'aimerais citer trois textes. Il y a Tite 3.14. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Tite 3.8 dit « Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. » Tite 2.14 dit « Jésus qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Maintenant, pourquoi j'ai fait ce message-là? Mon but a été de nous exhorter à nous éveiller spirituellement puis nous porter à vivre à la hauteur de notre justification, tant que c'est possible de le faire. Trop de chrétiens se sentent bien dans le relâchement spirituel, puis je pense que c'est en grande partie à cause de leur mauvaise compréhension de la doctrine de la justification par la foi seule, entre guillemets. C'est une doctrine dont on a abusé, une doctrine qu'on a tordue, déformée, pour nous accommoder dans notre tiédeur, tellement de fois, en notre propre honte d'ailleurs. En fait, je ne connais pas de doctrine qui ait autant contribué à l'attiédissement des croyants puis des églises que cette doctrine-là. Elle amène plusieurs croyances à se complaire en Jésus-Christ, un peu comme les pharisiens se complaisaient en Abraham. On est sauvé par la foi, parfait. Mais mettons une bouche à notre foi, mettons des jambes à notre foi, mettons des mains à notre foi. Réalisons notre responsabilité de chrétien qui est de faire tous nos efforts pour porter toutes sortes de bons fruits qui vont glorifier le Seigneur. Réalisons qu'on n'a pas seulement été appelé à croire en Jésus, mais aussi à lui ressembler, en faisant toutes sortes de bien, dans une bonne attitude surtout. Amen.